20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les archéologues vous le diront tous, rien ne vaut le terrain. Le grand air, les grands décapages, la puissance de la stratigraphie, les couleurs changeantes du sol, le bruit des moteurs de pelle mécanique, le crissement de la lame de rasette. Rien ne vaut la collecte des données primaires, celles que l'on étiquette et empaquette. Pour voir cette archéologie en train de se faire, ultime activité de plein air avant goudron et béton, je me suis rendu sur le terrain. C'est sur une fouille champêtre au cœur du bocage cernant le golfe du Morbihan que j'ai rejoint Joseph Le Gall et son équipe de l'INRA. Joseph Le Gall, nous voici donc sur une parcelle appelée Brestivent. Nous sommes dans la commune de Teix, donc bien sûr au cœur du Morbihan. Et nous rentrons sur le chantier immédiatement. Une sorte de fouille, on pourrait dire même cruciforme.
En forme de croix, oui. C'est nos manières de sonder pour pouvoir étudier des grandes fosses de ce type-là et voir apparaître en fait les différentes couches stratigraphiques et essayer de comprendre en fait les comblements de ces types de fosses. Donc là, tout ce que vous pouvez voir apparaître, en fait, ce sont des très grandes taches au sol qui apparaissent, qui sont probablement des anciennes carrières, peut-être attribuables au Moyen-Âge. Alors la question que l'on se pose, c'est est-ce que c'est pour extraire le granit qui affleure ici de manière régulière, ou alors aussi également pour extraire de l'argile, parce qu'en fait on voit des grandes poches d'argile ressortir à certains endroits en fait entre les affleurements rocheux.
On connaît des ateliers de potiers dans la région ?
Oui, on connaît des ateliers de potiers. En fait, il y en a un qui se situe à un petit peu plus d'un kilomètre d'ici, sur la commune de Surzure. C'est un atelier qui est daté de la période gallo-romaine, où effectivement où il y avait de la production de poterie, mais peut-être également des éléments de construction des matériaux en terre cuite. Voilà, que ce soit de la tuile, de la brique, etc., etc.
Alors moi, ce que je vois, c'est un énorme chantier, ça fait plusieurs hectares visiblement. Et alors là, vous êtes dans une phase très particulière, c'est-à-dire que aucune structure n'est encore visible, ou du moins n'est encore fouillée.
Oui, c'est cela. En fait, on est dans la première partie de notre opération. C'est la période du décapage archéologique. On va enlever en fait la première couche de terre, la couche de terre végétale, pour en fait voir ressortir en fait au sol les différents tracés de fossés, de fosses, de trous de calage de poteaux, etc., etc. Toutes ces fosses qui ont été creusées par les différentes populations humaines. Depuis la fin de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces structures que l'on voit apparaître, en fait, on va les délimiter, on va les bomber, on va les numéroter. Chaque structure va avoir sa carte d'identité. Et ensuite, derrière cela, effectivement, il va y avoir la période où on va rentrer dedans. On va rentrer dans les structures, on va descendre dedans, on va faire des coupes. Et on va essayer de comprendre, en fait, chaque structure. Et on va aussi essayer de récupérer les poubelles du passé, c'est-à-dire tous les déchets que les populations ont pu laisser sur place à l'intérieur de ces fossés, de ces fosses, que ce soit de la céramique, donc des éléments de poterie, leur vaisselle de table et pots de stockage, ou encore leurs outils, tout ce qui est outillage en pierre, mais aussi outillage métallique, puis aussi, plus rarement, parfois on a de la chance de découvrir des bijoux ou des monnaies.
Et toutes ces poubelles, elles datent de quelle époque ?
Alors ici, on a des poubelles qui datent essentiellement de la fin de l'époque gauloise et de la période gallo-romaine. Donc on se situe globalement sur ce site entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après, voilà, 4e siècle de notre ère.
On va avancer. Et sous un parasol, un fouilleur.
Sous un parasol, un fouilleur, parce qu'il fait un soleil de plomb.
Et il y avait eu déjà quelques trouvailles, visiblement, là.
François, qui fouille actuellement ici, en fait, est en train d'essayer de comprendre une série de fosses qui pourraient être assez anciennes, qui pourraient dater de la fin du premier âge du fer, donc autour des 6e, 5e siècle avant notre ère.
Vous aviez eu aussi quelques incinérations, visiblement, lors du décapage. Vous avez découvert des tombes.
Alors, durant la première intervention, avant la période de fouille, avant la fouille archéologique à proprement dit, donc pendant la période de diagnostic, différentes urnes à incinération ont été découvertes à proximité d'un enclos.
On incinère beaucoup à l'époque gauloise ?
Oui, a priori, en fait, on a encore des inhumations qui se font à la fin du premier âge du fer. Et effectivement, à partir des 6e, 5e siècles avant notre ère, on va avoir un passage à l'incinération. Alors, on va avoir différents cas. Au sein des cimetières familiaux, en fait, on va pouvoir retrouver parfois jusqu'à une vingtaine de sépultures incinérées, au sein desquelles vont être aussi dressées des stèles, que ce soit des stèles en bois ou en pierre. Et puis, on va avoir aussi énormément de sépultures beaucoup plus isolées, mais qui pourront également être marquées par des stèles. Mais là, par exemple, pour le cas où on fouille actuellement là, sur le site de Tex, il est possible qu'on ait deux petites urnes à incinération placées près d'affleurements granitiques qui pouvaient aussi former des sortes de stèles naturelles. On va avoir des cas relativement variés voilà, selon les contextes.
On va avancer. On se rapproche du parapluie, seul parapluie sur ce chantier. Ça fait à peu près combien d'hectares en tout et pour tout la surface que vous avez ouverte aujourd'hui ?
Alors la surface que l'on étudie actuellement porte sur près de 5 hectares. Le contexte d'étude de ce site prend place en fait en amont des travaux d'aménagement d'une grande ZAC au sud de la commune de Tex qui porte sur près de 35 hectares. Les diagnostics archéologiques, donc les sondages qui ont été faits en préalable à ces constructions, ont révélé différentes occupations. Une première occupation placée en bord de plateau qui date du premier âge du fer, donc autour des 6e, 5e siècles avant notre ère, et d'autres occupations plus tardives, datées donc, comme je le disais, entre le 2e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère, qui se placent un peu plus loin sur ce plateau. Donc là, en fait, on travaille sur près de 5 hectares, et l'année prochaine, on retravaillera encore sur près de 2 hectares et demi.
Alors là, ça ressemble à une sorte de grande fosse qui n'en finit pas.
On est à quelques mètres de l'entrée de l'enclos gaulois. Donc là, vous voyez apparaître un petit fossé ici, qui est un fossé qui délimite une petite parcelle attenante à l'enclos. Et en fait, on a des occupations plus anciennes, localisées par-ci par-là, avec une grande fosse dont on ne sait pas encore définir vraiment quelle est la fonction de cette fosse. Et puis en arrière, on a toute une série de trous de poteaux, une sorte de petite palissade avec deux emplacements de petites fosses au sein desquelles étaient placées des urnes.
On pourrait être sur une fosse, mais est-ce que l'on ne pourrait pas être sur un puits, voire mieux, un de ces fameux souterrains gaulois bretons ?
Alors non, là parce que il est arrivé à 30 cm de profondeur, il est arrivé sur le fond de la structure. Donc là, ça semble très brun, mais en fait il est sur ce qu'on appelle le sol géologique. Par contre, il n'est pas impossible que quand on travaillera sur la ferme de la fin du premier âge du fer, donc l'année prochaine, il n'est pas impossible de tomber sur ces fameux souterrains, ces fameuses structures enterrées souvent contemporaine de ces habitats.
C'est une des spécificités de l'archéologie bretonne, ces souterrains gaulois ?
Pas entièrement de l'archéologie bretonne, parce qu'en fait, ces architectures enterrées qui prennent corps de manière différente, ça va être des souterrains, ça va être des structures semi-excavées, ça va être des caves. Ce sont des architectures qu'on retrouve également en Normandie, si je me rappelle bien, également un petit peu en Pays de la Loire. Donc si on veut, plus armoricaine que bretonne. Et donc ce sont des structures qu'on retrouve régulièrement justement au sein de ces habitats des 6e, 5e, 4e siècle avant notre ère, qui pourraient être liés au... Alors, ça peut avoir différentes fonctions, mais une des fonctions qui peut leur être attribuée est le stockage de denrées alimentaires, et notamment tout ce qui est produits laitiers, viande, enfin produits de l'élevage dans tous les sens du terme.
C'est-à-dire que ça se conserve bien sous terre ?
Alors oui, ça permet de créer des pièces fraîches. Après, ça ne va pas se conserver comme ça non plus. Il va falloir aussi du sel pour conserver les viandes. Mais ce sont des, ça permet d'avoir des environnements plus propices à cette conservation. Voilà.
Alors là, nous sommes là où vous avez trouvé deux petits vases, deux petites urnes. Tout ça dans des sortes de petites cupules, cavités, qui ressemblent plus à du terrier qu'autre chose.
Alors il y a aussi du terrier, parce que là la difficulté du terrain, et comme on a un terrain très friable, on a du granit pulvérulent, c'est qu'il y a aussi des petites souris, des petites bêtes qui ont aussi fabriqué leur maison. Voilà, la difficulté est là. Parfois on a ces petits pièges, savoir différencier un trou de poteau d'un terrier. Heureusement c'est pas tout le temps, là c'est un cas quand même assez particulier.
Comment se composait l'habitat ? C'est-à-dire que j'ai à peu près vu le schéma, le plan, donc on serait sur une sorte de gigantesque enclos gaulois, c'est ça ?
Alors, qu'est-ce qu'un enclos ? Un enclos, c'est juste une parcelle qui permet de délimiter un espace. Un enclos, ça va pouvoir permettre de faire plein de choses. Là, par exemple, un enclos gaulois, on est ici en fait sur un enclos d'habitat. Donc c'est un fossé qui a été creusé assez profondément, sur près d'1,50 m de profondeur. Un fossé qui a été doublé d'un talus et qui permet en fait de délimiter l'espace à l'intérieur duquel vont se développer le cœur de l'habitation, le cœur de l'exploitation agricole qui s'est installé à cet endroit-là. Au sein de cet enclos, on va avoir des maisons d'habitation, nous allons avoir aussi également des bâtiments de stockage pour l'outillage, pour le foin, pour stocker les céréales, toute une série de bâtiments, de dépendances agricoles, c'est le cœur de la ferme. Donc ça, c'est l'enclos à proprement dit. Souvent, autour de ces enclos, on va voir d'autres fossés qui vont venir s'inscrire contre cette limite principale d'habitation. On va avoir divers fossés. Là, on a des fossés bien droits, bien orthonormés, qui viennent s'inscrire contre l'enclos. La plupart du temps, ce sont les parcelles attenantes à l'habitation, à l'intérieur desquelles on va avoir les espaces de culture. Ça peut être aussi tout simplement même des zones de pâture. Après, on va avoir des différences de plans selon les sites. On va avoir des sites qui vont avoir un plan très orthonormé, carré, rectangle, trapézoïdo. Et derrière ça, on a aussi des choses beaucoup plus circulaires, ovalaires.
C'est une chose qui est extrêmement fréquente ou extrêmement rare dans cette archéologie de la Celtique d'Armorique ?
Alors, le type d'habitat, le type de cœur d'exploitation agricole que nous avons ici, en fait, donc c'est un enclos d'habitation qui fait un peu moins de 4 000 m². C'est une exploitation de taille moyenne. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez récurrente dans une bonne partie de la Gaule à cette période-là, donc au 2e, 1er siècle avant notre ère. Et c'est quelque chose de très courant, sachant qu'on est à une période, donc au 2e, 1er siècle avant notre ère, où on a une phase d'expansion assez importante de ce type de ferme sur tout le territoire, avec tout un maillage dense et complexe de ces fermes qui vont être reliées en réseau par des chemins. Tout ça au sein d'un territoire très organisé.
Tout ça serait très dense. On aurait un parcellaire qui est encore plus dense que dans les années 50 ?
Oui, ou à peu près. Effectivement, on estime qu'à certains endroits sur le territoire, on a des fermes qui s'implantent tous les 500 mètres ou tous les kilomètres, même parfois, on a des fermes extrêmement rapprochées, qui sont à 200 mètres de distance. C'est vrai qu'on a un territoire, en fait, au 1er siècle avant notre ère, qui est tellement dense qu'il arrive même à saturation au niveau de l'emprise viable des exploitations agricoles.
Joseph Le Gall, est-ce que l'on assiste à une réorganisation totale ou pas avec l'arrivée de la période augustéenne, l'époque romaine, le tournant de notre ère, grosso modo ?
Oui, et même quelques dizaines d'années après la conquête, on voit une réorganisation foncière très importante, en fait, qui est commune à tout le territoire gaulois. Une réorganisation foncière qui va impliquer en fait une redistribution des cartes avec pas mal de domaines gaulois, des centres d'exploitation qui vont vivoter peut-être encore pendant quelques dizaines d'années, mais beaucoup d'établissements quand même qui vont être abandonnés. Donc parfois au profit de plus gros établissements qui vont s'installer et qui vont s'accaparer des terroirs beaucoup plus importants. Et parfois, on a aussi le cas de sites gaulois, donc le gaulois en fait, qui vont se réadapter. Et on va avoir en fait, donc parfois ça va se voir juste avec un petit déplacement du cœur de l'habitat, de l'exploitation en fait. Et parfois là même, comme c'est le cas à Teix sur notre enclos gaulois, en fait on a une superposition pure et simple. On a à la place de l'enclos gaulois, on va avoir un nouvel enclos qui va venir s'inscrire en fait en lieu et place de l'ancien habitat. Voilà.
On arrive devant l'enclos gaulois, ou du moins même l'entrée de l'enclos gaulois, qui n'est pas encore fouillée. On voit une sorte de grosse tache sombre sur un sol qui est à peu près plus jaune, plus granitique. Ce porche-là, bien sûr, vous allez le fouiller. On va essayer de faire un peu de prospective. Vous le voyez comment ? C'est un grand porche monumental, par exemple ?
Alors ça, on ne le sait pas encore. Donc effectivement, au niveau de l'entrée de l'enclos gaulois, on a tout un amas de pierres, de céramique, qui matérialise en fait une zone de passage. On verra si ce n'est pas un empierrement d'un petit chemin d'accès qui se place à cet endroit-là. Et donc, tout le jeu de la fouille va être aussi de comprendre comment sont aménagées les constructions, autant les systèmes d'entrée. Alors, est-ce que c'est un simple portail avec deux poteaux qui supportent une porte, ou alors une structure beaucoup plus lourde, beaucoup plus importante, de type porche. Et puis, de la même manière, quand on va étudier toutes les petites taches qui se trouvent à l'intérieur de cet enclos, qui correspondent pour la plupart à des trous de calage de poteaux, on va descendre, on va faire des coupes, on va descendre au sein de ces trous, on va vider ces anciens trous pour essayer de comprendre en fait comment étaient articulées les différentes architectures, quels trous de calage de poteaux servaient à supporter la charpente, quels poteaux correspondaient aux emplacements des portes, ou encore où se plaçaient les murs, les parois des bâtiments, etc. etc. Voilà.
C'est un jeu assez dur. Parce que, par exemple, un grenier, qui est en général surélevé, hein, un grenier, c'est juste 4 trous au sol. Il faut avoir quand même une certaine imagination.
Oui, et surtout qu'effectivement, à partir de 4 trous de poteau, un carré, on peut imaginer des tas de choses différentes. Ça peut être effectivement autant une petite clôture qu'un bâtiment surélevé de type grenier, ou même parfois, comme on a aussi une architecture gauloise qui fonctionne souvent sur des modules de 4 ou 6 poteaux, des modules porteurs de charpente, on peut être juste en fait sur les supports principaux d'une charpente qui déborde beaucoup plus largement, qui correspond à un bâtiment beaucoup plus grand. Voilà. Donc il va falloir repérer en fait tous les indices possibles pour essayer de comprendre chaque architecture. Quoi.
En tout cas, puisque nous sommes devant la porte ou le porche, ou du moins l'entrée, si on a affaire à un porche, c'est là qu'on pourrait trouver des choses un peu particulières, les crânes de chiens, les ramures de cerf, etc., etc., que l'on trouve quelquefois dans les grandes fermes gauloises.
Alors,
Il faut rêver.
Après, il y a une chose à prendre en compte en Bretagne, c'est que les sols acides sont relativement acides. Donc, les crânes de chiens, il est peu probable qu'on en trouve. Après,
c'est vrai, vous n'avez même pas d'os.
Mais on a, oui, exact, on a extrêmement peu d'ossements. Après, on peut toujours rêver d'avoir des belles choses, mais comme je le disais, on va essentiellement étudier leurs poubelles. Donc, on aurait pu avoir leur ossement de tout ce qui est nourriture animale, etc. Mais on va essentiellement avoir de la poterie, de la céramique, de l'outillage en pierre, en métal, etc. etc. Voilà.
Rentrons donc dans l'enclos, même si on ne le voit pas encore, vu qu'il n'a pas été encore fouillé. Les grandes ressources de cette région, qui est bien sûr à quelques kilomètres du golfe du Morbihan, c'est justement, sans nul doute, le sel.
Oui, alors, de manière générale, Là, on est en position aussi terrestre, donc les ressources principales vont aussi être d'abord dites agricoles. Donc, on va voir tout ce qui est lié à l'élevage et à la céréaliculture. Et après, derrière, effectivement, il y a le contexte ici de côtier, qui est l'exploitation du sel, donc la production de sel, avec des ateliers qui sont connus à moins d'un kilomètre du site, des ateliers de sauniers. Et puis derrière ça, il y a aussi un autre contexte qui est aussi le contexte maritime plus global, avec une voie commerciale maritime importante, justement au niveau du golfe du Morbihan. Et puis,
Joseph Le Gall, vous avez obtenu une couverture LIDAR, qui est un procédé absolument révolutionnaire, donc pour voir le sol et bien sûr les structures anciennes. Comment justement, d'après cette carte, cette couverture, votre site s'organise dans ce paysage de fond de golfe du Morbihan ?
Une couverture LIDAR, donc c'est un relevé altimétrique, un relevé microtopographique en fait, qui a été mené à la fois par le CHOM et l'IGN sur toute la frange littorale. Et en fait, ce relevé en fait nous permet aussi à nous de mieux appréhender en fait le territoire, donc sa topographie générale, mais aussi les divers indices archéologiques, divers indices de sites possibles, et aussi de réfléchir, combiné avec l'étude des photographies anciennes, des cartes aussi anciennes, combinées à toutes ces cartes et ces photos, on va essayer de mieux appréhender en fait où se trouvent, où se placent les routes anciennes, comment en fait s'articulent les sites en fait au sein de ces territoires. Et effectivement, donc le site que l'on étudie actuellement se place en fait sur un petit plateau qui domine actuellement en fait les marais de Séné, et notamment la rivière de Noyalo qui coule à l'ouest de ce petit plateau. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet, cette étude beaucoup plus large du contexte, du territoire, nous permet en fait d'aller un peu plus loin, aller au-delà en fait de l'étude à proprement dite du site, mais de comprendre aussi les interactions possibles avec d'autres sites connus, que ce soit des sites répertoriés sur la carte archéologique, que ce soit juste des simples prospections pédestres, aériennes, etc., des sites repérés ou même des sites fouillés. Donc tout ça, en fait, en étudiant les chemins, en étudiant les sites connus, des différentes périodes, en fait, on va pouvoir essayer de comprendre en fait les relations possibles entre les différents sites, comment ça s'articule. Par exemple, il est possible que juste en contrebas de l'enclos gaulois qu'on est en train de fouiller, il y a un autre enclos de la même période qui se place, lui, cette fois en partie basse, à proximité d'un ancien bras de mer de la rivière de Noyalo, qui pourrait être peut-être ici plus lié à ce qu'on connaît justement dans ces positions littorales proprement dites, pures et simples, qui pourrait être beaucoup plus lié à des activités artisanales, que ce soit de production des ateliers de sauniers, donc pour la production du sel, ou même ça peut être aussi d'autres types d'artisanat.
Des petites pêcheries, éventuellement, non ?
Effectivement, peut-être même des petites pêcheries, oui. Voilà, après, il faut fouiller pour savoir.
Le sel, c'est une richesse vraiment de cette région. Ça se fait un peu partout, de la côte normande et surtout de la côte bretonne. Mais c'est très, très présent, visiblement, dans le golfe. C'était une ressource capitale.
Oui, c'est une ressource capitale dans le sens qu'elle, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'or des Gaulois. Le sel est une ressource qui permet donc justement la conservation de tout ce qui est viande et poisson, donc toute une série de salaisons. Et donc c'est un élément en fait très prisé et qui participe aussi au commerce. Justement, le golfe du Morbihan qui se place en fait en bonne position sur les voies maritimes depuis la Méditerranée, ça participe en fait de ces ressources commerciales. En fait, on va voir pas mal d'importations d'amphores vinaires d'Italie.
Vous en avez ici ?
Alors oui, on en a pas mal. Pour la période gallo-romaine, ça crache un petit peu partout à l'intérieur des fossés. Mais également, dès la période gauloise, en fait, on retrouve en fait de l'amphore qui ressort aussi dès le décapage. Voilà.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
La fouille de Tex est désormais achevée, c'est dans la place à l'aménagement du territoire. Pour faire la synthèse de ce chantier, j'ai rejoint Rennes pour rencontrer Yves Ménez, conservateur régional de l'archéologie. Yves Ménez, la fouille de Tex s'est bien sûr achevée il y a quelques temps. Vous l'avez bien sûr visitée, vous l'avez gérée. Comment pourrait-on résumer cette opération ?
Alors, Tex est assez représentative de l'histoire en fait des campagnes bretonnes dans cette période entre le 6e siècle avant notre ère et le 3e, 4e siècle après notre ère. Donc l'occupation démarre par une ferme gauloise qui n'est pas encore fouillée, donc mais qui est caractéristique des établissements enclos des 6e, 5e siècle, début du 4e siècle avant Jésus-Christ en Bretagne, avec un grand enclos ovalaire et son cimetière associé, donc cimetière familial à l'entrée du site. Il sera fouillé dans la tranche 2 de la ZAC. Cette ferme sera probablement abandonnée au 4e siècle avant Jésus-Christ pour la construction de celle qui est en cours de fouille, donc un établissement enclos quadrangulaire cette fois-ci, occupé dès le 3e siècle avant Jésus-Christ vraisemblablement, donc qui correspond à la phase maximale d'occupation des campagnes bretonnes, donc une densité très forte d'occupation avec une mise en exploitation systématique du territoire. Cette ferme va bien résister à la conquête, ce qui est le cas de relativement peu de fermes en Bretagne. Donc en fait, son occupation va continuer après la conquête de la Gaule par César et jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, pour ensuite être abandonnée pour la construction d'un établissement situé plus au nord, donc qui est une ferme plus vaste, qui montre que la famille a continué à exploiter ses terres avec une exploitation plus ample, maison de maître importante et une belle ferme avec ses dépendances. Donc ça montre que ce terroir a été occupé quasi sans discontinuité pendant quasiment 1000 ans, avec des déplacements d'habitat en fait dans cette partie-là.
Ah, c'est très intéressant ce temps long des campagnes bretonnes comme ça. C'est une chose qui arrive souvent ?
C'est une chose qui commence à être plus en plus racontée par l'archéologie préventive, par le biais des diagnostics et des fouilles réalisées chaque année en Bretagne. Ça permet en fait de voir les grandes dynamiques d'occupation du sol. Donc occupation du sol qui démence très tôt, hein, dès le néolithique, dès qu'on a commencé à cultiver les sols, on a ces dynamiques d'occupation qui prend des formes d'exploitation différentes en fait selon les périodes. La fixation des habitats sur le territoire avec une bonification des terres démarre chez nous dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc là on a vraiment une prise de possession par des fermes sur le modèle qui continue encore actuellement, donc des fermes qui exploitent, cultivent et bonifient sans cesse ce terroir.
Ce qui est aussi intéressant, c'est ces sortes de ruptures au 4e siècle avant notre ère. La ferme semble totalement abandonnée. Que se passe-t-il ? Est-ce que d'ailleurs on pourrait en faire un cas général en Bretagne ?
Alors c'est l'enquête de l'INRAP lancée par François Malrin, Gertrude Blanquert, Thierry Leroux en fait, qui permet d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe dans le nord de la France dans cette période-là, donc durant l'âge du fer. On a montré que ce creux du 4e siècle, début du 3e siècle avant notre ère, apparaissait dans quasiment toutes les régions. Et en fait, il peut être lié à une péjoration climatique dans cette période-là, donc des terres où les rendements sont moins bons et où en fait les terres un petit peu plus difficiles à exploiter. Il y a certainement également des phénomènes sociaux, puisque le fait cette appropriation des terres qui marque la fin du 6e et le 5e siècle a pu générer également des oppositions un peu partout dans les sociétés. On voit que quand des familles s'accaparent des terres qui juste ici pouvaient être exploitées par d'autres familles, forcément ça génère des tensions.
Les dernières années du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire le début de la conquête romaine, ne semblent en revanche absolument pas toucher cette ferme. Comment se fait-il ?
Alors là, c'est lié à l'histoire particulière de cette famille, du terroir qu'elle cultivait, de la façon dont elle a pu résister. Alors à la crise qui est militaire, mais surtout en fait dans les décennies qui suivent la conquête de la Gaule par César, il y a eu des pertes en hommes importantes, il y a eu des tribus à verser à Rome, et donc en fait les exploitations les plus fragiles ont disparu. Pour celle-ci, manifestement, elle a résisté à cette phase de crise qui a fait quand même beaucoup de fermes en Bretagne. Alors on va faire une enquête pour le mesurer précisément, mais probablement 8 à 9 fermes sur 10 ont dû disparaître dans cette phase-là, dans les décennies qui ont suivi la conquête, dans les une ou deux générations qui ont suivi la conquête de la Gaule par César. Celle-ci a résisté, peut-être parce que les terres exploitées étaient bonnes, peut-être parce que la famille a su bien assurer le tournant de la conquête romaine et de la construction d'une nouvelle capitale de cité, d'une nouvelle organisation des territoires, mais celle-ci a manifestement bien passé ce cap.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Claire Levasseur et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré aux origines de Pompéi.